Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain consacré à un empereur mondial des médias, voire peut-être l'empereur mondial. Et puis Bertrand Chamerois pour son écran de veille qui va nous emmener à Dubaï. Notre invité a été chanteur, compositeur, il a écrit des comédies musicales. C'est Vincent Baghian qui sera avec nous, mais pour toute autre chose, un livre jeunesse. Ça s'appelle Émile Titan, Opération Salicorne. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu évidemment. Et puis dans les indispensables, un western porté par Tom Hanks. Marjorie Adelson nous en dira plus. Et 9 portraits de femmes très différentes. C'est Margot Barallon qui va nous les faire découvrir. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe Bondel, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chamerois.
J'ai rien dit, vous riez, c'est incroyable.
Bertrand Chamerois qui mime les génériques.
Ah oui, c'est pour ça.
Sur le tome bas, c'est l'heure de l'écran de veille. Bertrand, votre écran de veille. Et ce matin, je l'ai dit, vous nous faites voyager.
Oui, mais je ne sais pas vous, mais je n'arrive pas à me faire à cette nouvelle semaine qui a débuté. Le week-end est passé vraiment beaucoup trop vite. Alors pour me donner l'illusion que nous ne sommes pas mercredi. Quoi ? Ah, on est seulement mardi ? J'ai regardé 7 à 8 en replay. Oui, je suis comme ça. Le mag des dimanches de TF1 proposait une immersion dans un lieu où les gens vivent maintenant comme dans le monde d'avant.
Soleil, chaleur et peu d'impôts. Ajoutez à cela une bonne maîtrise de la Covid, malgré l'absence de confinement ou de couvre-feu.
Un restaurant bondé. Une atmosphère de fête, alors que le monde entier semble éteint. Dubaï en met plein les yeux à ses visiteurs.
Dubaï, nouvelle destination phare pour de nombreux Français, dont ce chef marseillais qui a choisi de s'y installer en évitant soigneusement de passer par la case Wall Street English. Écoutez-le commander du poisson au kilo. Visiblement, c'est du poisson connecté.
I want 20 kg, please. Possible? 20 kg, but 2-3 kg per kg. Hein.
Yeah. Oula, des kilos per kg. Bah, on est déjà à la 5G, mon vieux, faut se tenir au jus. Dubaï, donc, nouvelle Eldorado des Français. Ah, super, j'adore la dorade, répondraient ceux qui s'y sont quasiment tous exilés. Vous voyez bien sûr de qui je parle.
Mais oui.
Bah si, les meilleurs, eux.
Les influenceurs, ces vedettes de télé-réalité, reconverties dans la pub sur les réseaux.
Dubaï, c'est le Disneyland d'Energie 12. Il y a tellement de candidats de télé-réalité là-bas qu'ils pourraient produire une nouvelle émission rien qu'en utilisant les images des caméras de vidéosurveillance. Des candidats influenceurs chapeautés par la papesse du genre Magali Berda. C'est grâce à elle si les candidats de télé-réalité revendent des produits AliExpress 6 fois le prix en story Instagram. J'exagère un peu, mais on n'est pas très loin de la vérité. Magali Berda, éleveuse de champions donc, mais aussi et surtout éco-responsable.
Magali représente des dizaines d'influenceurs français. Pour les suivre, elle a décidé de passer une semaine sur deux ici.
Donc là, ça peut pas être plus vite que ça. Hein.
Paris-Dubaï, tous les 15 jours. Et alors, elle va faire quoi, Greta Thunberg? Elle va encore aller chouiner à l'ONU? Elle a moins de followers que Mila des Marseillais. Alors bon, très bon résumé de la télé-réalité par Magali au passage. On ne peut pas faire plus vite, dit-elle. Ah, elle parle de son nouvel appartement, mille excuses. Vous l'aurez peut-être remarqué, depuis quelque temps, pas un week-end ne se passe sans qu'un reportage ne soit consacré à Dubaï. C'est vraiment le nouveau zoo de Beauval. On voit tellement Dubaï que j'ai l'impression d'y vivre. Malgré la pléthore de sujets qui y est consacrée, les différents magazines se débrouillent pour se démarquer. Petit comparatif entre 7 à 8 et 50 minutes inside.
L'hôtel, prisé des têtes couronnées, est aussi celui des défis les plus fous.
En plus d'accueillir célébrités et royautés, le Burj Al Arab est aussi connu pour organiser des événements fous.
Cette démonstration de Formule 1.
Comme cette démonstration de Formule 1. Ou ce swing de golf à 212 mètres de hauteur.
Ou encore ce swing de golf à 300 mètres de hauteur.
Visiblement, quand les journalistes arrivent à Dubaï pour tourner leur reportage, l'office du tourisme leur fournit une petite clé USB avec les images à diffuser et un petit fascicule avec les infos pratiques. Bon, il manque juste la page sur les droits de l'homme, mais c'est pas bien grave. Dans les deux magazines, les mêmes images tournées par le service com de l'hôtel et les mêmes commentaires à une différence près, vous l'avez noté Philippe,
ouais.
Le swing de golf a gagné 88 mètres de haut d'un mag à l'autre. Alors le swing du golfeur va-t-il encore prendre en hauteur? Réponse sans doute ce week-end dans l'un des 10 magazines du dimanche.
Merci beaucoup Bertrand Chamerois, on vous retrouve évidemment tous les matins à 7h40 pour votre chronique La Touche Âme dans la matinale de Sébastien Krebs. Donc je vous dis à demain. Eva,
oui,
c'est le moment de votre zapping du lendemain et vous dites avoir craqué pour un documentaire que j'attends, doc proposé par Arte.
Oui, vous avez bien raison Philippe, documentaire en 3 parties, elles sont toutes diffusées ce soir et c'est intitulé Murdoch, le grand manipulateur des médias. C'est un portrait sans concession du magnat de la presse, Rupert Murdoch, et sur la façon dont ces médias, presse et télé, ont influencé la politique de la Grande-Bretagne et des États-Unis, notamment parce qu'il s'est implanté dans le monde entier. L'homme d'affaires a débuté en Australie, d'où il est originaire, Alastair Campbell, qui était l'ancien directeur de la communication de Tony Blair et qui a souvent eu affaire à Murdoch, rapporte la façon dont le Premier ministre australien décrivait Murdoch.
Il nous avait dit qu'il y a deux choses qu'il faut savoir sur lui. La première, c'est que c'est un vrai salopard. La seule façon de se comporter avec lui, c'est d'agir en vrai salopard. Sinon, il n'aura aucun respect pour vous. Et la seconde chose qu'il faut bien comprendre sur lui, c'est que dans son orbite, dans son univers, les priorités sont les suivantes. Premièrement, Rupert Murdoch. Deuxièmement, Rupert Murdoch. Troisièmement, Rupert Murdoch. Et quatrièmement, Rupert Murdoch. Tout tourne autour de lui et de ses intérêts financiers.
Et voilà, le ton est donné. Alors sur ces presque 3 heures de film, vous allez découvrir la saga familiale avec la fille Elizabeth, les deux frères James et Lachlan et les trois femmes. La série Succession, que je vous recommande d'ailleurs sur OCS, inspirée des Murdoch, est en dessous des trahisons et autres manipulations intrafamiliales dont le patriarche est capable dans la vraie vie. Et d'ailleurs, c'est un homme aussi qui a voulu influencer la vie politique britannique. Il est à la manœuvre, par exemple, pour pousser Tony Blair à organiser un référendum qui a débouché sur le refus de l'euro. C'est encore lui qui soutient David Cameron, qui défend aussi le pro-Brexit Nigel Farage. Sa méthode, il utilise ses journaux pour asseoir une position politique, dénigrer l'opposition, bien évidemment. Et c'est son tabloïd, News of the World, qui va s'affranchir de toutes les règles. Régulièrement, le journal dévoile en une les frasques sexuelles des uns et des autres. La vie privée n'existe pas, n'existe plus. Un ancien reporter, Graham Johnson, témoigne.
L'idée, c'était de prendre pour cible 2 parlementaires conservateurs. Le fait de posséder News of the World, c'était comme avoir une division SS à notre service, qu'on pouvait mobiliser à tout instant pour exécuter les ordres jusqu'à ce que mort s'en suive. Coercition, bullying, intimidation, blackmail, chantage, fraude, deception, tromperie, illegality, informations obtenues par des moyens illégaux grâce à des détectives privés. Tout ceci était admis et utilisé, et j'y ai moi-même eu recours.
C'est sympa.
C'est sympa, hein. Des reporters devenus experts aussi dans les écoutes téléphoniques, écoutes illégales. Évidemment, en 2011, le scandale est révélé par The Guardian avec l'aide du New York Times. Personnalité et anonyme décident alors de porter plainte contre Murdoch, à commencer par Hugh Grant, traqué pendant 10 ans par News of the World.
Murdoch est un véritable danger pour les démocraties libérales, pour peu qu'on soit attaché à ce système.
Documentaire incroyablement riche de témoignages, de rebondissements, c'est extrêmement bien écrit et mis en scène, au point qu'on a parfois l'impression de regarder une série, mais il s'agit de la réalité, réalité effarante entre manipulation, excès d'autoritarisme et système quasi mafieux. Ne manquez pas ce documentaire sur Arte dès 20h50.
Merci beaucoup Eva Roch, merci beaucoup Bertrand Chamerois. Bonne lecture à tous les deux. Dans un instant, notre invité Vincent Baguian, mais d'abord musique avec Lova.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Try too hard, trying to fit in, no, no. 'Cause I'm not really used to this. The music's too loud, I can hear myself think. Someone picks a fight, someone spills their drink. Yeah.
Dance for the Hell of It, c'était Lova sur Europe 1. Dans un instant, nous serons avec Vincent Baghian, ex-chanteur, notamment compositeur de la comédie musicale Mozart, l'opéra rock. Il sera notre invité pour toute autre chose, son livre Jeunesse, Émile Titan, Opération Salicorne. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Vincent Baghian.
Bonjour Philippe Vondel.
Je
ne
sais pas comment vous définir, vous êtes multicasquette, vous êtes chanteur, auteur de chansons, vous avez écrit pour Zazie, pour Florent Pagny, pour Elsa Tovati, également pour vous-même. Vous êtes également l'auteur de comédies musicales comme Mozart, l'opéra rock, 1,5 million de spectateurs et c'est pas fini, 800 000 CD vendus, des adaptations en cours dans tous les pays. Tiens, extrait. On connaît ça, ça ne se joue plus en France, mais ça continue de tourner dans le monde.
Ça continue au Japon, en Chine, en Corée, en Russie. Voilà, comme d'autres comédies musicales sur lesquelles j'ai travaillé, 1789, Les Amants de la Bastille, par exemple, ça fait plus de spectateurs au Japon qu'en France aujourd'hui.
Votre actualité, c'est un roman jeunesse, Émile Titan, Opération Salicorne, avec Baptiste Vignol, c'est chez Poulpe Fiction, j'adore ce nom de maison d'édition. Avant de raconter l'histoire pour tous les parents et pour tous les enfants qui nous écoutent, pourquoi un roman jeunesse? C'est pour les 8-12 ans, c'est bien ça?
C'est pour les 8-12 ans, oui.
Pourquoi un roman jeunesse?
Parce que Baptiste Vignol et moi avons des enfants, le mien s'appelle Émile, le sien s'appelle Titan. Et qu'on lit souvent des histoires à nos enfants le soir, et parfois ces histoires ne nous conviennent pas, ou on se dit, tiens, le langage pourrait être un peu plus sophistiqué. Et Baptiste et moi, on avait un rêve, c'était d'écrire une histoire d'espions, des enfants qui sont espions, sans que les parents soient au courant. Parce que, bien sûr, l'interdit, c'est ce qui est intéressant.
Ouais.
Et aussi, une autre chose, c'est que nos enfants à l'école ne sont pas forcément les meilleurs. Pourtant, ils ont d'énormes qualités. Et on trouvait ça intéressant que les services secrets repèrent des enfants pour des qualités qui ne sont pas des qualités scolaires, justement.
Vous avez donné une partie du pitch. C'est quoi l'histoire et qui est votre héros, Émile Titan?
Alors, Émile Titan, c'est un jeune garçon qui habite à Pornichet, dont les parents ne sont pas très, très présents pour des raisons différentes, et qui se fait recruter, repérer dans une école.
Sa maman fait du théâtre, donc elle n'est pas là le soir, et son papa est militaire, donc il est en opération.
Son papa est sur un bateau ouais. de commerce.
Ah pardon, j'ai compris qu'il était militaire, moi.
Donc il est souvent absent. Et il se fait repérer dans une école par des agents dormants, comme il y en a dans les services secrets.
Bien sûr.
Voilà.
Sauf qu'il repère rarement un enfant qui est en CM2.
Eh bien, figurez-vous que en écrivant l'histoire, on s'est renseigné et que les services secrets repèrent des enfants très très jeunes. Alors pas forcément pour les envoyer en opération sur le terrain, mais par exemple pour les hackers et tout ça, ils repèrent des enfants par l'intermédiaire de concours auxquels vous avez accès sur Internet. Je ne vais pas balancer les noms ici puisque ils tiennent à rester secrets, bien sûr.
Alors je vais lire le premier paragraphe. Ça démarre comme un polar, sauf que c'est pas un polar. Toi, je vais te péter la gueule. Émile Titan, 9 ans et demi, ne s'attendait pas à ce qu'on vienne l'aborder ainsi dans la cour d'école. Pourquoi ce nouveau, arrivé le matin même en plein milieu de l'année scolaire, l'agresse-t-il comme ça, sans raison? On ne s'embête pas avec les descriptions, vous entrez direct dans le vif du sujet.
Bah c'est le principe. Moi, c'est mon premier roman, mais j'ai des amis écrivains.
Ouais.
Et le premier conseil qu'ils m'ont donné, c'est ouais. de rentrer tout de suite dans l'histoire.
Voilà, vous avez de la chance, parce que moi, j'ai des amis écrivains. Il y a 4 pages de description avant qu'il se passe quelque chose.
Bah moi, je suis ami avec Bernard Werber, par ouais. exemple, qui me donne beaucoup de conseils d'écriture. Et un de ses conseils, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet.
On ne s'embête pas non plus avec la description des lieux, parce que le livre est illustré avec des plans, notamment le port de Pornichet. Et alors, c'est assez réaliste, en même temps ça fait rêver, parce que c'est réaliste et ça paraît impossible, comme l'histoire de Fantomette. Tout est réaliste, mais ce qui est réaliste, vous me disiez, c'est qu'on confie des missions à des enfants de CM2. Les enfants pilotent des voitures de course sur le circuit du Castellet, il y a le plan du circuit du Castellet. Leur instructeur, au passage, est tout petit, c'est un nain. Il s'appelle Alain Prost. Au passage, Alain Prost est tout petit. Ça vous fait rigoler? Vous lui avez demandé l'autorisation?
Non, on ne lui a pas demandé l'autorisation parce qu'on voulait lui rendre hommage. On ne pensait pas qu'un hommage pouvait le décevoir ou le blesser.
Et puis, c'est aussi un ouvrage pédagogique et didactique. Je m'adresse aux parents. Par exemple, quand il y a un terme compliqué, vous l'explicitez. Exemple, en lisant votre livre, chicaneur. J'aime beaucoup entendre employer ce terme ancien pour définir une personne qui cherche à créer des problèmes, répondit Émile d'une voix guillerette. Donc, on apprend le mot chicaneur. Ou alors, il y a des renvois en bas de page. Par exemple, le mot gaucho, on apprend ce que c'est. Et quand on est adulte, on peut apprendre des choses. Moi, j'ai appris ce qu'était une mémoire eidétique grâce à vous. C'est quoi, vous vous souvenez ?
Oui, oui, bien sûr. C'est ce dont Mozart était doté, puisque j'ai travaillé sur Mozart l'opéra rock, j'ai appris des choses. Mozart, par exemple, était capable d'assister à des symphonies religieuses qui étaient interdites, qu'il était interdit d'écrire. Et lui, il rentrait chez lui après l'avoir entendu et il avait tout retenu.
Il mémorisait une heure de partition.
Voilà.
Mémoire eidétique, souvenir de tout. Ouais. Elle ne se souvient pas de tout, mais elle connaît quasiment tout sur vous. C'est Hélène Manarino. Elle arrive dans Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Émile Titan, Opération Salicorne, ça vient de sortir, c'est un roman jeunesse aux éditions Poulpe Fiction. C'est signé Vincent Baghian, co-signé Vincent Baghian. Et là maintenant, on arrive dans l'émission à l'Opération Manarino. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour à tous.
C'est un agent Manarino. Secret.
C'est drôle.
Le héros, c'est un agent secret. Ouais. Donc j'espère qu'on va apprendre des choses un petit peu cachées grâce
Opération
à vous.
Opération Vandel aussi.
Voilà.
Bonjour Vincent Baghian.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. J'espère que vous êtes bien réveillé, puisque vous travaillez essentiellement la nuit, quand il n'y a aucun bruit, comme ça personne ne peut vous déranger. Et vous êtes capable de travailler jusqu'au petit matin. Alors heureusement qu'il y a vos spéculoos dans un yaourt avec du miel pour vous réveiller au petit déjeuner.
Mais comment vous faites ?
L'agent secret,
vous avez vu ? L'agent secret.
Il n'y a pas dans votre livre.
Alors, Vince Bag, c'est votre surnom, de vos amis, mais de tous. Surtout, on va se rappeler quelques bons souvenirs de votre vie. Il va falloir quand même nous expliquer pas mal de choses. Vous allez voir. Commençons par l'enfance. Une enfance bercée par Georges Brassens. Et puis surtout, cette anecdote qui prouve votre imagination débordante. Vous avez un jour raconté à votre professeur que vous n'étiez pas venu en cours, puisque vous aviez été invité, vous et toute votre famille, à dîner chez la reine d'Angleterre.
Non.
Ouais, j'ai réussi à faire ça, croire ça à mon professeur.
Il vous a cru ?
Il m'a cru et donc il était d'autant plus vexé après quand il a appris que c'était faux.
Parce que vous avez dit que c'était faux après.
Non, c'est mes parents qui ont eu rendez-vous avec le prof et la prof a dit je vous félicite pour la reine d'Angleterre. Et mes parents ne comprenaient pas.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 10 ans.
Oh là là.
J'ai raconté que mon père qui travaillait au PTT avait installé des téléphones là-bas et que c'est pour ça qu'à ce titre-là qu'il était invité.
Alors on va continuer notre voyage, Vincent Baghian, et on va se diriger vers l'Allemagne. Avec votre amour de jeunesse, une Allemande, elle a voulu vous présenter à ses parents, mais vous ne parliez pas un mot d'allemand. Mais cette jeune fille vous a appris à dire une phrase.
Vous savez la phrase ?
Oui, elle m'a appris à dire une phrase horrible. C'est horrible, parce qu'elle m'a appris à dire... Moi, je croyais que j'allais la demander en mariage, mais elle m'a appris...
Dites-la en allemand, pour les gens qui parlent allemand.
Mais elle a appris à dire « Du stinkst wie eine alte Frau unterm Arm ».
Ça veut dire
« Tu pues comme une vieille femme sous les bras ».
C'est
ce que j'ai dit à sa mère, en fait, en pensant lui demander en mariage.
Voilà, alors j'avais...
Vous avez quel âge, vous étiez au CMB
encore ? Non, j'avais 17 ans.
Oh là là.
Oui. Alors merci de l'avoir dit, parce que je l'ai noté cette phrase, mais je n'ai jamais parlé allemand de ma vie, donc ça n'est pas du tout...
Et du coup, maintenant, je ne parle pas allemand, mais je sais faire une vraie demande en mariage en allemand.
Ouais.
Et tellement j'ai...
Et un bon râteau.
Wir haben uns Rosen zu heiraten.
Voilà. Et ça veut dire, puis-je vous épouser ?
Nous avons décidé de nous marier.
Alors, fini les langues étrangères aujourd'hui. Votre langage préféré, c'est la Rosalie Titi Pampan, voilà, que vous chantez à vos enfants. Vous aimez aussi cuisiner. Votre spécialité est un poulet au citron confit. Mais votre plus grande activité, c'est quand même le bricolage. Et surtout, changer les joints de la salle de bain. Transformer. Améliorer plus généralement. Et en ce moment, vous apprenez des tours.
Vous avez des relations intimes avec ma femme, j'ai l'impression.
Elle a des relations intimes.
Je ne vais pas dévoiler ça maintenant. Vous êtes un peu mentaliste, Vincent Baghian.
J'adore la magie.
Ouais.
C'est vrai que
vous apprenez souvent pour les faire lors de dîners entre amis.
Voilà.
Ah oui,
j'aime beaucoup la magie.
Et vous pouvez faire une démo ou ça prend beaucoup de temps ?
Et ça prend un peu de temps. Il faudrait que je vous fasse une démo avec des cartes ou avec.
Ouais.
Des...
Non, c'est pas très radio.
Et mentaliste, vous pouvez pas
Hélène,
donner
alors.
Le code de carte bleue de Philippe Vandel, par exemple. Alors Vincent Baghian, vous êtes aussi un homme passionné.
C'est une bonne idée, ça.
Je sais. Vous êtes aussi un homme passionné de shopping, enfin de chemises, surtout celle d'une boutique dans le 3e arrondissement de Paris. Vous êtes capable de ressortir avec tous les modèles. Vous aimez prendre soin de vous. Vous avez raison. C'est un petit coin tranquille, comme le titre d'une de vos chansons. Sinon, vous aimez vous détendre en lisant L'île de Robert Merle ou en rêvant d'un décor de neige, où il n'y a que ça d'ailleurs. C'est peut-être un signe que lorsque vous êtes parti au Sri Lanka, vous avez perdu votre passeport, appel téléphonique pendant des heures, 4 heures de discussion avec un interprète pour au final le retrouver. Et ça n'arrive qu'à vous. Alors Vincent Baghian, votre bonheur, vous le trouvez auprès des autres, surtout dans le travail, des artistes, les musiciens, des souvenirs incroyables. Comme lorsque vous faisiez la première partie de Zazie, tout le monde dormait dans des hôtels. Et avec les musiciens, chaque hôtel signifiait une mission très particulière. Je n'en sais pas plus, je vous demande de terminer ce portrait avec cette anecdote, s'il vous plaît.
Allez-y, c'est à vous Vincent.
Dans tous les hôtels du groupe Mercure, hein, je suis obligé de le dire, il y a le portrait des patrons qui est affiché, et nous on avait décidé de libérer l'employé du joug de l'employeur, et donc on décrochait les portraits dans tous les hôtels dans lesquels on passait. Le problème, c'est que c'est des portraits Harcourt qui valent 600 euros pièce.
Harcourt, c'est le grand studio de photos qui fait des très belles photos de comédiens en noir et blanc.
Et donc le producteur, à la fin de la tournée, ils se sont bien rendus compte que chaque fois que Zazie passait quelque part, le portrait disparaissait. Et donc ils ont compté 24 fois 600 euros et ils l'ont facturé au producteur.
Il les a payés ?
Je crois qu'il les a payés.
Et ils sont où les portraits ?
Eh bien, il y en a un peu chez tout le monde. J'en ai quelques-uns, si vous voulez, je peux vous en donner.
Ah bah oui, dans le bureau de Philippe.
Dans le studio, si vous... Et vous-même, vous avez un portrait Harcourt ou pas ?
De moi ?
Ouais.
Non, pas encore.
Quelle modestie. Merci beaucoup, Hélène Manarino.
Avec plaisir.
Vous restez avec nous, Vincent Baghian. Dans un instant, notre premier indispensable, c'est Marjorie Adelson, qui va nous faire découvrir une comédie romantique déjantée en compétition pour les Golden Globes. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Vincent Baghian, qui co-signe avec Baptiste Vignol un livre jeunesse, ça s'appelle Émile Titan, Opération Salicorne, c'est chez Poulpe Fiction. Je ne vais pas raconter évidemment comment l'histoire termine, mais je peux quand même me permettre de lire la toute dernière ligne de la toute dernière page, fin du début de la suite. Il y aura une suite ?
Alors on est en train de l'écrire, oui.
Et est-ce que ça pourrait devenir un film ? Parce qu'en fait, c'est très, très imagé. Ou alors un dessin animé.
Vous êtes visionnaire parce qu'en ce moment, on est sollicité par 3 producteurs qui veulent l'adapter au cinéma, oui.
Au cinéma ou en série ?
Au cinéma.
Et voilà.
Pour l'instant.
Et avec des vrais comédiens,
avec
des vrais enfants
comédiens,
qui jouent.
Oui, oui.
Parce que ça coûte très, très cher de tourner avec des enfants. Vous savez, il y a la DAS qui surveille avec raison. Il ne faut pas qu'ils fassent tant d'heures par semaine.
Je pense que c'est des producteurs qui ont pignon sur rue et qui sont vraiment assez importants. Et donc, ça ne leur fait pas peur.
D'accord. Et puis on voit déjà que tout a été très, très, très cinématographique. On voit les plans. Vous êtes un grand cinéphile. Vous avez profité du confinement. Ou alors vous êtes rabattu sur le cinéma, sur la VOD, pour regarder plein de films.
Je regarde les films, mais comme dans la lecture, je suis dyslexique. Je mélange les noms, les personnages, les auteurs, tout.
Donc chaque film devient magnifique parce que l'histoire est très complexe. Au contraire, vous y perdez.
Et aussi, je peux piquer à n'importe qui en pensant que c'est de moi.
D'accord. Moi j'ai un problème, je ne reconnais pas les gens dans les films parfois. Bonjour Marjorie Adelson.
Bonjour Philippe.
Pardon de raconter ma vie, mais c'était juste pour dire qu'avec vous on parlait de cinéma. Vous nous parlez en ce moment chaque semaine des indispensables VOD, puisque les salles ne sont pas encore ouvertes. Et vous commencez par La Mission, c'est un film inédit sur Netflix.
Oui, c'est un très joli western avec Monsieur Tom Hanks. Alors on est juste après la guerre de sécession dans les États du Sud. Et Tom Hanks est le capitaine Kidd, un rapporteur public. C'est-à-dire qu'il va de ville en ville donner des nouvelles aux habitants. Il leur lit les journaux. C'est un homme seul, assez mystérieux. Et un beau jour, alors qu'il est en plein désert, il entend un cri. Et là, il tombe sur une petite fille de 10 ans. Elle vient tout juste d'échapper à un accident.
Qui es-tu ? Tu as un nom ? Dis-moi.
Oh, yeah, Colbert.
Je comprends pas. Viens. Tu peux pas rester ici. Donne-moi la main.
Alors la petite fille qu'on entend, c'est Johanna. Elle a été élevée par des Indiens qui ont tué sa famille il y a 6 ans. Et donc du coup, elle parle pas un mot d'anglais. Alors évidemment, Tom Hanks va la prendre sous son aile pour la ramener dans son village. Sauf que sur leur route, eh bien, ils vont devoir affronter pas mal d'ennemis. Alors le film est vendu comme un western, mais en fait c'est plutôt l'histoire de 2 âmes blessées qui vont apprendre à s'apprivoiser. C'est un joli film, très émouvant mais très classique. Il n'y a pas vraiment de surprise, hein. C'est presque un peu propre. Personnellement, j'attendais un petit peu plus d'audace de la part du réalisateur.
Vous attendiez que la petite fille meure, par exemple ?
Non, pas qu'elle meure, mais vous savez, le réalisateur, c'est celui qui a réalisé les Jason Bourne, Paul Greengrass, et donc voilà, on s'attendait un petit peu plus. Après, voilà, on passe à un bon moment, on se laisse emporter par la beauté des paysages et le jeu des acteurs. Tom Hanks, évidemment, qui est l'incarnation de la bonté au cinéma, mais aussi la jeune Elena Zengel, quasiment muette, mais absolument formidable. C'est vraiment leur duo qui fait tout. C'est un joli film pour s'évader, La Mission sur Netflix.
Alors le deuxième film dont vous nous parlez ce matin, c'est Palm Springs, disponible sur Prime Video.
Oui, c'est un film qui sera en compétition aux Golden Globes, là, dans 15 jours. C'est une comédie romantique vraiment qui déménage. Ah. C'est l'histoire de Sarah, elle rencontre Niles lors d'un mariage. Elle, c'est la sœur de la mariée, elle est un peu paumée. Lui, il ne sait pas trop non plus où est-ce qu'il en est dans sa vie. Très vite, il sympathise et il s'éloigne un peu de la fête pour discuter. Sauf que là, il se retrouve coincé dans une boucle temporelle. Ils sont condamnés à revivre le jour du mariage à l'infini et il n'y a aucun moyen d'en sortir.
Je sais pas ce que c'est. La seule façon de vivre ce truc, c'est de se rendre à l'évidence que rien n'est important.
Dans ce cas, à quoi bon vivre ?
Bah, a priori, il n'y a pas d'autre option.
On peut pas mourir.
Non, quoi qu'il arrive, la boucle recommence. Il y a peut-être un moyen de se tuer, mais j'ai pas trouvé comment et je peux te dire que j'en ai fait des suicides.
Mais c'est Un jour sans fin.
C'est un peu basé sur Un jour sans fin, mais c'est un petit peu plus subtil et un peu moins comique.
Oui. Continuez. Qu'est-ce qui va se passer alors ?
Bah alors du coup, chaque jour, ils vont tenter, comme dans Le jour de la marmotte, des choses de plus en plus folles, coucher avec les invités, faire des discours absurdes, ruiner le mariage et surtout affronter enfin la vie. Alors même si vous n'êtes pas fan des comédies romantiques, il faut voir ce film parce qu'il dynamite complètement les codes. C'est loufoque, trash à certains moments. Le film démonte vraiment tous les clichés des rom-coms et il pose une question. Quel sens donner à l'existence quand le temps n'a plus de valeur ? Alors en plus, en contexte de pandémie, l'éternel recommencement, bah, ça prend une ampleur nouvelle et amusante. Ça donne un film drôle, décalé et frais, Palm Springs sur Prime Video.
Une rom-com, c'est-à-dire comédie romantique.
Et puis
le dernier film que vous avez choisi, Marjorie, c'est The Nest. Il n'est pas sorti en France, mais MyCanal le propose directement sur sa plateforme.
Oui, c'est un film qui a cartonné au Festival de Deauville, puisqu'il a raflé 3 prix. Alors, on est dans les années 80. Jude Law joue Rory, un entrepreneur ambitieux qui vit à New York. Mais Rory, il en veut toujours plus et il persuade sa femme et ses enfants d'aller vivre dans son Angleterre natale. Il est convaincu...
On laisse terminer Marjorie, après je voudrais avoir votre avis, voir si vous êtes d'accord.
Donc du coup, il part dans son Angleterre natale, il est convaincu que là-bas, il va enfin réussir à faire fortune. La famille s'installe donc dans un immense manoir, pas du tout rassurant, et rien ne se passe comme prévu. Alors c'est un très beau portrait d'une famille qui se délite complètement. Ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur, il s'amuse avec nous. Il y a une tension qui se maintient tout au long du film. On ne sait jamais si on va basculer dans un thriller, dans un drame psychologique, dans un film d'horreur. La scène finale, notamment, nous prend au dépourvu. Je vous en dis pas plus. Magnifique prestation aussi de Carrie Coon qui joue l'épouse. C'est elle vraiment qui porte le film. Elle est sublime en femme forte, vous savez, qui refuse d'être écrasée par son mari et par une société anglaise très archaïque. C'est un film intriguant, assez angoissant à voir sur MyCanal.
Vous l'avez bien vendu, Marjorie Adelson. Vous l'avez aimé autant que Marjorie, ce film ?
Oui, c'est exactement ça. C'est très subtil. Il se passe pas grand-chose et pourtant on est tenu en haleine tout le temps.
Formidable. Et sinon, quel autre film vous vouliez voir ?
Vous avez le droit de dire aucun, celui avec la petite fille, parce que ça serait une petite copine d'Émile Titan, ça serait intéressant.
On est bien d'accord. On va parler cinéma avec Margot Barallon dans un instant. Merci beaucoup, Marjorie Adelson. Mais d'abord, on va entendre de la musique. Et je veux juste dire un mot, on va entendre quelqu'un qui est un copain à vous, Francis Cabrel.
C'est pas un copain, c'était mon producteur. Il a produit 2 de mes albums.
D'accord. Francis, vous étiez aux rencontres d'Astafor.
J'étais aux rencontres d'Astafor, exactement.
Francis Cabrel, sur Europe 1, Le Peuple des Fontaines.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
J'ai confié ma peine au peuple des fontaines. Qu'un jour tu reviennes te pendre à mon bras. Dimanche et semaine ne sont qu'une chaîne de ces jours gris qui n'en finissent pas. Des rues où je traîne toujours. Ces instants trop courts, le Rhône ou la Seine, Rimbaud, Verlaine, rien ne m'en consolera. Prince et souveraine, simple comédienne, comme des dizaines. D'amant maladroit. On gravait les mêmes stupides rengaines, les mêmes soupirs aux mêmes endroits. Instants trop courts, les seuls qui comprennent. cache où ça mène, Fontaine, dites-moi. Vous qui en avez tant écouté, vous qui ne sauriez pas mentir, est-ce qu'elles savent pardonner ces belles pour qui l'on respire? Les avez-vous vus s'approcher, pencher sur vos reflets saphir, dire qu'on peut tout recommencer, chercher bien dans vos souvenirs.
Cherchez bien.
J'ai confié ma peine au peuple des fontaines. Un jour me reviennent le bruit de tes pas. Je donnerai tout Göttingen, toutes les Suzannes de Cohen, pour ce jour béni où tu me reviendras. Je donnerai tout Göttingen, les Suzannes de Cohen, pour ce jour béni où tu me reviendras.
Peuple des Fontaines, c'était Francis Cabrel, faut-il le dire, sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable qui va nous faire découvrir la nouvelle mini-série originale de Canal+.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Vincent Baghian, il est auteur, il n'est pas compositeur, il est chanteur, on va parler de musique tout à l'heure. Il vient de publier son premier roman jeunesse, s'appelle Émile Titan, Opération Salicorne. On reste dans la fiction avec vous, Margot Barallon.
Bonjour.
Bonjour. Et ce matin, vous nous conseillez, on va parler de série, la dernière création décalée de Canal+.
Oui, ça s'appelle Neuf Meufs. Alors, le principe des créations décalées de Canal+, c'est que ce sont toujours des séries aux épisodes très courts, une dizaine de minutes, et anthologiques, donc vous pouvez les regarder dans n'importe quel ordre, un peu comme des petits sketchs indépendants les uns des autres. Mais il y a toujours un fil rouge, et en l'occurrence, donc les neuf meufs du titre habitent toutes dans le même immeuble.
Ça fait penser à un film de Takela, mais ça raconte quoi exactement?
Eh bien, rien. Rien et tout à la fois. Ce sont vraiment des instantanés, des petites tranches de vie, surtout de vie amoureuse à tous les âges. Il y a par exemple Anna, trentenaire célibataire qui carbure aux applis de rencontre, ou Lola, la vingtaine, qui vient de se faire larguer et qui est partie chercher du réconfort auprès de son papa.
Les histoires d'amour, c'est toujours compliqué. Et puis c'est pas compliqué, c'est chiant.
Tu sais pourquoi il m'a quitté?
Comment ça a été quitté? Alors que c'est toi qui étais partie?
Non, c'est lui.
Mais pourquoi il a fait ça, salopard?
Il se trouve trop vieux pour moi.
N'importe quoi. Il a quel âge?
Il a ton âge, et il dit que c'est trop. Et il dit qu'il m'aime, mais après il dit que c'est mieux s'il me quitte, parce que sinon il va gâcher ma vie.
Évidemment que c'est trop, évidemment qu'il va gâcher ta vie, il aurait pu penser plus tôt, j'ai envie de te dire. C'est qui ce mec? Tu l'as rencontré où?
À la fac.
Mais pas en avance.
C'est mon prof.
Voilà.
C'est drôle.
Alors c'est souvent drôle, mais à part vous, Philippe, ça va pas non plus vous faire rire aux éclats, enfin pas tout le temps.
Bah là,
c'est plutôt poétique. C'est vraiment une série poétique légère. On va explorer le désir de ces femmes, l'apprentissage aussi. Il y a tout un épisode avec une mère bombardée de questions par sa fille qui veut tout savoir de sa première fois et de l'orgasme. Et puis les promesses non tenues de l'amour aussi, avec Framboise, sexagénaire, qui retrouve son ex-mari le temps qu'il lui rende un tableau.
Cette maison-là. Et tu m'as dit, c'est ici que je voudrais t'emmener dans cette maison. Nous aurons deux enfants, un garçon et une fille. J'apprendrai l'italien, je monterai un restaurant. Toi, tu enseigneras le français et l'histoire de l'art à l'université de Genova. Voilà ce que sera notre vie, tu m'as dit. Et nous mourrons vieux et contents.
Peux-tu emmener dans cette maison?
3 semaines.
Nous avons eu un garçon.
Mais la fille, tu l'as eu avec quelqu'un d'autre?
C'est Victor Hugo qui disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Eh bien, vraiment, Neuf Meufs, je trouve, illustre bien cette vision hugolienne de la mélancolie.
Est-ce qu'il y a des têtes connues au casting ?
Alors déjà, il y en a une à la réalisation, puisqu'on doit la série à l'actrice Emma Decaune. Et elle a vraiment très bien choisi ses comédiennes, qui sont toutes excellentes. On peut citer notamment Aïssa Maïga, qui joue le rôle d'une femme qui va laisser déborder sa baignoire pour provoquer un dégât des eaux chez son voisin du dessous, dans l'espoir de le séduire. Il y en a aussi des moins connues, mais tout aussi bonnes, Marie Bunel, Sarah Succo par exemple. Et pour leur donner la réplique, un homme, Philippe Catherine, qui apparaît quand même dans 3 épisodes, notamment un où il essaie de consoler une jeune Anglaise qui rend son appartement après s'être séparée de son compagnon. Sauf que vous allez l'entendre, il maîtrise assez mal la langue de Shakespeare.
It's dommage to separate you. Dommage, look, this is the city of love. Alors?
Of sadness, you mean?
You know Albert Camus? Grand Albert Camus, un grand monsieur, great French writer. He said, tout l'amour, enfin, il n'y a pas assez d'amour dans ce monde pour qu'on le gaspille.
Voilà, si vous avez envie de 10 minutes douce amère de Philippe Catherine, de beaux portraits de femmes, eh bien allez savourer la série Neuf Meufs sur la plateforme de Canal+, MyCanal.
C'est très tentant, si tous les épisodes sont de cette eau, c'est très très tentant. Vous êtes séduit comme moi, Vincent Baghian ?
Oui, je vais regarder ça.
Voilà, vous avez toutes les chaînes de plateforme, vous êtes un fan de séries ou pas du tout ?
Non, pas...
C'est comme pour les films, vous mélangez tout et tout le monde ?
Non, mais pas parce que je travaille trop pour regarder beaucoup de séries.
Ouais.
Mais donc alors celle-là ne dure pas longtemps.
Voilà, j'ai regardé celle-là qui dure 9 minutes.
Je vous demandais tout à l'heure, mais sur quoi vous travaillez en ce moment ?
Je travaille sur la suite des Mille Titans. J'écris un autre roman personnel.
Ouais.
Et puis j'écris aussi une autre comédie musicale. Enfin, voilà.
Votre roman personnel, c'est sur quoi ? Ne me dis pas, c'est personnel. Réponse interdite.
C'est sur un monsieur qui règle la vie un peu comme il entend qu'elle soit, avec aucune morale. Voilà,
C'est pas facile d'enchaîner après ça. Enfants. Vous avez vu, c'est pas facile d'enchaîner après ça.
Oui, c'est le contraire d'un roman pour enfants. Un roman pour grands adultes, confirmé.
Vincent Baghian, vous restez avec nous. C'est la dernière partie de Culture Média et on va parler musique. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Vincent Baghian, je rappelle ce roman jeunesse, Émile Titan, Opération Salicorne avec Baptiste Vignolles, et c'est chez Poulpe Fiction. Alors je l'ai dit, vous êtes auteur de comédies musicales comme Mozart, l'Opéra Rock, 1,5 million de spectateurs, 800 000 CD vendus rien qu'en France, ça se joue encore dans plein de pays, vous avez fait cette confidence. Aujourd'hui, j'ai les moyens de ne plus travailler, vous disiez ça en 2011, c'est toujours le cas ?
Ben, en ce moment, les comédies musicales, ça ne joue pas beaucoup. Donc ouais. Mes moyens diminuent, mais ouais, disons que c'est mon luxe, c'est qu'aujourd'hui, je peux faire à peu près choisir ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas obligé d'accepter tout ce qu'on me propose.
Vous êtes également chanteur et auteur pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et en préparant cet entretien, j'ai découvert un titre que vous aviez écrit pour Zazie, titre qui lui a plu à tel point que dans son album Live, The Live, elle vous a invité à venir le chanter sur scène avec elle. On vous écoute tous les deux.
J'étais à l'hôtel Beau Rivage, un nid douillet face à la plage. J'aurais pu croire au paradis, tout seul au fond de ce grand lit.
Mais voilà, j'ai ouvert les yeux, et par malheur, on était deux. Je rêvais de vivre sans toi, mais tu étais nu sous mes draps.
Je ne t'aime pas, c'est plus fort que moi. J'aimerais crier que je t'aime, je crois bien que j'ai un problème.
Je ne t'aime pas, c'est plus fort que moi. Les larmes qui coulent sur tes joues, c'est pas facile à dire, mais je m'en fous.
Et le public est mort de rire et nous avec, ça vous est venu comment et comment s'est fait le duo ?
Ben, c'est Zazie qui a écouté une chanson sur, qui était sur mon album et qui m'a dit « Viens la chanter avec moi au Bataclan ». Moi, je m'occupais de la mise en scène du spectacle du Bataclan. Ouais. Et elle m'a dit « Viens la chanter avec moi ». Et le duo a transformé une chanson qui était un peu glauque en quelque chose de comique.
Ben, c'est très très drôle. Le Parisien décrit ainsi votre style. Ces chansons humoristiques nous donnent le sourire en parvenant à faire passer la dépression pour une plaisanterie. Vincent Baguian excelle dans le laconisme, l'aphorisme, la vacherie. Dans tous les articles, il le raconte. Votre premier disque en 91, il s'est vraiment vendu à 71 exemplaires.
Ouais, c'était horrible.
Ou c'est du storytelling? Vous dites
non,
ça pour
non,
qu'on
c'est,
rigole.
C'est vrai. C'est vrai. En même temps, il était très mauvais, donc il ne méritait pas un meilleur score. Mais c'était quand même vexant, surtout que j'avais signé chez Fnac Music et je pensais que le label allait faire que ça allait beaucoup se vendre dans les magasins. Mais pas du tout.
Ouais, 71 exemplaires. Ensuite, il y a un deuxième disque pas mal produit par Francis Cabrel.
Ça
vous étiez
passé
à ces rencontres d'Astafor. Vous dites à l'époque, j'écrivais des morceaux rasoirs et j'écoutais des crétins qui me donnaient des mauvais conseils. Quels conseils ?
Ben, par exemple, dans une maison de disques, il y a un directeur artistique qui, un jour où j'étais arrivé à l'heure, il m'a dit « Si tu veux être une star, il faut être en retard ». Et quand il m'a dit ça, je me suis dit bon, c'est pas possible que je travaille avec des crétins de 24 ans qui sont jamais montés sur scène. Et c'est comme ça que je me suis inscrit aux rencontres d'Astafor et j'ai rencontré Francis Cabrel.
Vous avez également écrit une chanson assez incroyable pour Florent Pagny. Le plus incroyable plutôt, c'est qu'il a accepté de la chanter. Ça s'appelle « Si tu n'aimes pas Florent Pagny » et dès l'intro, ça attaque fort.
Oui, je suis dans mon état normal, non, j'ai pas honte de mon look. C'est du gel, j'ai même pas les cheveux sales. Et quand j'enfile des perles à mon bouc, c'est pour mieux me souvenir de toutes les couleuvres que j'avale. Toutes mes envies de mettre le souk, que je réfrène tant bien que mal. Oui, j'en veux toujours davantage. Non, je ne sais pas chanter moins fort. Gueuler, ce n'est pas une preuve de courage. Malheureusement, je suis d'accord. Je perds pourtant souvent mon temps dans d'inutiles rages. À vouloir avoir raison au lieu de laisser les autres avoir tort. Si tu n'aimes pas Florent Pagny, je peux comprendre car moi-même, je t'avoue que parfois j'ai envie de me filer des beignes.
Florent Pagny qui chante de lui-même qu'il a parfois envie de se filer des beignes, c'est vous qui avez écrit ces paroles. Comment vous avez réussi à le convaincre de chanter ce texte ?
Je pense qu'on ne peut pas convaincre Florent Pagny, c'est lui qui décide. Il a mis 4 ans avant de la chanter. La première fois qu'il l'a entendue, c'est Calogero qui lui est... Calogero m'a appelé pour écrire une chanson pour Pagny. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est intéressant qu'un chanteur qui est adulé se dise que lui ne s'aime pas.
Ouais.
On lui a proposé cette chanson. Et dans un premier temps, il a été vexé, il n'a pas voulu la chanter. Tout son entourage lui a dit conseillé de la faire.
Ouais.
Et 4 ans plus tard, il avait pris du recul, sans doute, et il s'est dit, tiens, c'est intéressant, je vais la faire.
Ce qui est assez rare dans votre parcours, c'est qu'il est atypique. Vous avez démarré par la pub, mais même votre arrivée dans la pub, Vincent Baguian, est totalement atypique. La première fois que vous avez poussé la porte d'une agence, c'était coursier.
Ouais, j'étais coursier.
Mais en comment fait, on se retrouve publicitaire en ayant été coursier ?
J'ai rencontré Dominique Bouvard, qui était rédactrice, la fille de Philippe Bouvard. J'ai sympathisé avec elle et j'ai vu que ce métier était intéressant, qu'on allait en studio pour faire les spots de... Et moi, j'aimais la musique, j'aimais aller en studio et donc je me suis rapproché d'elle. Elle m'a beaucoup aidé.
Mais c'était les années 80, parce que maintenant, pour faire de la pub, il faut avoir fait des écoles de commerce, il faut être Bac plus 28.
Ça devient plus difficile, effectivement.
Quasiment, et j'en parle parce que vous avez notamment travaillé sur des campagnes autour de Serge Gainsbourg. C'était quoi ? Quel album ? Quelle tournée ?
J'ai fait, à partir de l'album New Under Arrest, avec Didier Le Pêcheur, on a fait toutes les campagnes de Gainsbourg. On avait 24 ans et c'était une histoire incroyable.
Et c'est vous qui les conceviez ? C'était comment de travailler avec Gainsbourg ? Ou c'était lui ou c'était un mélange des deux ?
Alors c'était nous. On lui faisait des propositions. On passait par Philippe Le Richaume, qui était son agent, son manager. Et quand il validait, on présentait à Gainsbourg et il disait oui ou non.
Et vous êtes allé boire des coups avec lui ? Vous l'avez rencontré ou pas ?
On a dîné avec lui, on a tourné des films avec lui et c'était un monsieur d'une gentillesse incroyable. Et qui acceptait des choses toujours à la limite. Enfin, c'était un artiste, même dans la communication. Donc c'était un vrai plaisir. Et j'ai travaillé pour d'autres artistes, c'est pas toujours le cas.
C'était un vrai plaisir de vous avoir à ce micro, Vincent Baguian. Émile Titan, Opération Salicorne, c'est Jeunesse, c'est chez Poulpe Fiction. Culture Média revient demain à 9h. Nous serons avec celui qui a révélé l'affaire Clearstream, je vais arriver à le dire, au grand public, le journaliste Denis Robert. Il va nous en dire plus sur Blast. C'est son nouveau média sur Internet. Barnett et puis la comédienne Annie Dupéret pour une nouvelle série de France 2, série historique La Faute à Rousseau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite après le flash. Et Anne Roumanoff, ça fait du bien qu'il reçoit Jean-Pierre Pernaut. On reste dans les médias et même dans les JT de TF1. Je fais lien avec Anne-Claire Coudray qui vous précédait à ce micro. À tous et toutes, je vous dis merci de nous suivre. À demain.
Europe 1, Culture Média. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.